Dossier d'Europe, la chronique européenne animée par Jean-François Biardeau et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Centre d'information Europe Direct Limousin.
La planète est en ébullition. Enfin, ça fait un moment qu'elle l'est, mais là particulièrement quand même. L'Iran, la Syrie, la Libye et la Corée du Nord, les puissances montrent leurs muscles. L'Union européenne paraît en retrait, voire absente. Alors est-ce à dire qu'il n'existe pas de politique étrangère européenne ?
Alors une précision essentielle hein, pour commencer. En matière de politique étrangère, les États membres conservent une entière souveraineté dans leurs choix comme dans la conduite de leur politique. On ne peut donc pas à proprement parler d'une politique étrangère européenne. Pourtant, les États ont appris à coopérer dans ce domaine au point qu'a émergé par étapes une politique étrangère commune. La coopération a démarré au début des années 1970 avec la mise en place de la coopération politique européenne, CPE, qui est un processus informel de consultation entre États membres sur les dossiers de politique étrangère, le but étant de dégager, si possible, une approche commune. Mais les guerres de Yougoslavie ont montré les limites de cette coopération et ont convaincu les États membres de la nécessité de la pousser plus loin. Le traité de Maastricht, en 1992, a transformé cette politique de coopération en une politique étrangère et de sécurité commune, PESC, régie par des procédures intergouvernementales, et le traité d'Amsterdam, en 1997, l'a institutionnalisé avec deux apports importants. Un processus de décision plus efficace avec l'abstention constructive, c'est-à-dire la possibilité pour un pays qui refuse de participer à une décision de ne pas voter pour éviter de bloquer la décision régie, elle, par la règle de l'unanimité. Le deuxième apport, c'est la création de la fonction de haut représentant pour la PESC, rattaché au Conseil en tant que secrétaire général du Conseil. Le Conseil, hein, c'est le Conseil de l'Union, c'est le Conseil des ministres, hein, des Affaires étrangères. En 2003, dans un contexte de désunion des États membres face à la guerre américaine en Irak, une stratégie européenne de sécurité a été adoptée, intitulée « Une Europe sûre dans un monde meilleur » fondée sur la promotion du multilatéralisme efficace. La dernière étape en 2009 a consisté, avec l'entrée en application du traité de Lisbonne, de donner un outil diplomatique plus cohérent. La fonction de haut représentant pour la PESC et celle de commissaire aux relations extérieures au sein de la Commission européenne ont été fusionnées dans le nouveau poste de haut représentant pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, doté de deux casquettes, la présidence permanente du Conseil des affaires étrangères et la vice-présidence de la Commission en charge de la coordination de toute l'action extérieure de l'Union. Depuis 2009, trois titulaires se sont succédés, Catherine Ashton, Federica Mogherini et depuis le 1er décembre, Josep Borrell. Par ailleurs, en 2010, a été mis en place un organe diplomatique européen au service du haut représentant, le Service européen pour l'action extérieure, SEAE, qui gère près de 150 délégations de l'Union dans les pays tiers.
Donc beaucoup de monde, beaucoup d'activités. Alors en quoi consiste cette politique étrangère ?
Alors en 2016, prenant en compte l'environnement géopolitique bousculé avec la montée de la Chine, le réveil de la Russie, le pivot asiatique des États-Unis et leur retrait relatif d'Europe, le terrorisme et les printemps arabes, l'Union s'est donnée à l'initiative de Federica Mogherini une nouvelle stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité qui définit cinq axes prioritaires. Le premier axe, c'est la sécurité de l'Union face aux nouvelles menaces, terrorisme, menaces hybrides, insécurité énergétique, cyberespace, etc. Le deuxième axe, c'est la résilience de l'État et de la société des pays candidats et partenaires. Troisième axe, une approche intégrée des conflits et des crises avec capacité d'intervention à tous les stades du cycle de gestion du conflit, prévention, déploiement, stabilisation, etc. Quatrième axe, le soutien aux organisations régionales de coopération ou d'intégration qui aident les États à s'affirmer sur le plan économique, sécuritaire et culturel, par exemple l'Union africaine. Enfin, dernier axe, une gouvernance mondiale pour le 21e siècle, appuyée sur le droit international ou avec le souhait d'une ONU forte. Pour répondre à ces priorités, la PESC consiste avant tout à coordonner les politiques étrangères des États membres par les échanges d'informations et les consultations mutuelles entre chancelleries, par l'harmonisation des points de vue et des actions diplomatiques concertées. Il s'agit de susciter l'émergence de principes communs avec éventuellement des dispositions opérationnelles pour leur mise en forme.
Alors, quels sont les résultats ? Les Européens parlent-ils d'une seule voix dans ce domaine de la politique étrangère ?
Alors, ils y parviennent parfois. Par exemple, en matière de diplomatie climatique, le succès de la COP21 et l'accord de Paris doivent beaucoup à l'Union, qui a effectivement parlé d'une seule voix durant toutes les négociations. En matière de dialogue et de coopération avec les organisations régionales d'Amérique latine, d'Afrique, d'Asie orientale, en matière de réaction aux sanctions, ainsi, au lendemain de la répression de Tiananmen en 1989, le Conseil européen a décrété un embargo sur les armements en direction de la Chine. Je ne suis pas sûr que ça empêche les Chinois de dormir, mais enfin, cet embargo tient toujours. En 2014, l'Union européenne a prononcé des sanctions économiques contre la Russie pour son rôle dans la crise ukrainienne, sanctions reconduites en décembre 2019. Mais les Européens échouent aussi dès que les dossiers deviennent très sensibles. Ainsi, on l'a vu en 2003, lors de l'action américaine en Irak, à laquelle des États européens ont participé, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Italie, le Danemark, quand d'autres États ont refusé et ont même condamné l'action, la France, l'Allemagne, la Belgique. On le voit sur le dossier israélo-palestinien, avec les réticences de certains pays à critiquer Israël, l'Allemagne, les Pays-Bas. On le voit aujourd'hui aussi sur l'attitude à adopter face à la Russie. Dialogue constructif pour certains pays, dont la France, fermeté, vigilance pour d'autres, par exemple la Pologne. L'unilatéralisme de Trump représente une opportunité pour les Européens de resserrer les rangs et pour l'UE de gagner en autonomie stratégique. Pourtant, en mai 2018, lors de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, dont l'UE avait regretté le transfert, étaient représentées l'Autriche, la Hongrie, la République tchèque, la Roumanie, quand d'autres États, à l'instar de l'Union, boycottaient la cérémonie.